À Rencontre spirituelle, il sera question aujourd'hui d'une Mexicaine qui est morte en 1937, qui a laissé une œuvre considérable de 60 volumes, c'est à peu près la quantité de volumes qu'a laissé saint Thomas d'Aquin. Et elle était mère de 9 enfants, oui, une mère de famille, et c'est une mystique que l'on a comparée aux plus grandes mystiques de l'histoire de l'Église. Et le vrai nom de cette Mexicaine, que l'on appelle Conchita, c'est Concepción Cabrera de Armida. Mais pour aller plus facilement, bien, je dirais habituellement Conchita, du nom sous lequel elle est connue. Il y a un livre assez considérable qui a été publié par le père Philippon, dominicain, au sujet de Conchita, journal spirituel d'une mère de famille. C'est paru chez Iris, les distributions Iris à Montréal, ainsi que chez Déclic de Brouwer en même temps. Vous pouvez commander ça chez Iris, je vous le répéterai, j'espère, à la fin de l'émission. Le cardinal, archevêque, primat même du Mexique, le cardinal Miranda, a écrit à son sujet au début du livre, « Nous avons connu la servante de Dieu Concepción Cabrera de Armida et nous l'avons vue à Rome et à Conchita, du nom sous lequel elle est connue. » Il y a un livre assez considérable qui a été publié par le père Philippon, dominicain, au sujet de Conchita, journal spirituel d'une mère de famille. C'est paru chez Iris, les distributions Iris à Montréal, ainsi que chez Déclic de Brouwer en même temps. Vous pouvez commander ça chez Iris, je vous le répéterai, j'espère, à la fin de l'émission. Le cardinal, archevêque, primat même du Mexique, le cardinal Miranda, a écrit à son sujet au début du livre, « Nous avons connu la servante de Dieu Concepción Cabrera de Armida, et nous l'avons vue à Rome et à Cayoacán. » Cayoacán, c'est au Mexique. « Nous avons lu ses œuvres, nous avons beaucoup entendu parler de ses vertus. C'était une très belle âme, très simple, charmante, aux yeux de Dieu et des hommes, dit-il. Et c'est dans ce pays, le Mexique, qu'a vécu la servante de Dieu. » C'est ici qu'elle a prié, qu'elle a aimé, souffert, et de plus, par la force de son union avec le Christ. C'est ici qu'elle a fondé au Mexique des œuvres qui se développent avec une admirable fécondité. En une demi-heure, je n'ai aucun temps pour vous parler des œuvres admirables qu'elle a fondées, je ne vous en parlerai donc pas, je vous le signale. Il dit que c'est par ses mains qu'est passé l'ensemble des documents qui clôt la phase du procès diocésain informatif pour la cause de béatification et de canonisation de cette mère de famille. Ce sont des documents précieux, dit-il, qui contiennent, en plus de ses admirables écrits, les témoignages de nombreuses personnes qui ont vécu dans son intimité et qui ont connu sa vie exemplaire, une vie qui a été sanctifiée par les vertus propres de son état d'épouse et de mère de famille, ainsi que la docilité qu'elle avait aux appels de l'Esprit-Saint. C'est d'une âme pure et généreuse. Et ces documents de si grande valeur sont déjà au Vatican pour le procès de béatification et de canonisation. Il écrit ça il y a déjà plus de 25 ans environ. Il est bon de considérer spécialement la vie, dit-il, de cette âme privilégiée sous l'angle de la famille. Parce que on ne peut qu'avoir de l'admiration, il me semble, quand on lit sa vie et qu'on la voit se raconter dans son foyer avec une simplicité et une fidélité. Et on la voit d'ailleurs sous sa plume, elle nous raconte, on la voit se sanctifier au fond dans l'accomplissement de sa mission. Une mission, oui, une mission qui est celle de bien des femmes et qui est méprisée aujourd'hui parce qu'on n'en parle plus, c'est la mission d'épouse puis de mère. On ne parle plus de ça aujourd'hui. En la suivant, pas à pas, là, dans sa vie familiale, on s'aperçoit que elle est un modèle véritable, vivant, qui nous est réservé aujourd'hui, pour éclairer nos intelligences, pour nous aider à découvrir ces trésors incomparables que j'ai goûtés, moi, dans le cœur de ma mère, ces trésors incomparables de sagesse, de force d'âme et d'amour, contient la vie chrétienne familiale. Dans la vie de Conchita, son autobiographie, il y a un fait presque unique et providentiel qui nous permet de suivre. De l'âge de 32 ans, là, 75 ans, elle est morte à 74-75 ans, on voit la montée progressive vers Dieu d'une âme privilégiée, d'un héroïsme exceptionnel, et elle est dotée d'un message spirituel pour l'Église entière. Pour tous les gens d'aujourd'hui, je vous assure, j'ai lu en particulier la section sur la Trinité, c'est fabuleux. Il n'y a aucun souci de littérature dans ce récit qui est véridique, où l'on retrouve pêle-mêle au hasard des circonstances de sa vie les plus sublimes élévations mystiques, et tout ça voisine avec les tâches quotidiennes d'une mère, même des recettes de cuisine d'une parfaite maîtresse de maison, vous direz qu'elle était un peu étrange. Non, non, c'est qu'elle est normale. Et tandis qu'elle écrit, mettons, sur la génération du Verbe, oui, la génération du Verbe, c'est en haute mystique, ça. Les futurs prêtres étudient ça en étudiant la Trinité. On peut lire ça, nous aussi, les laïcs, maintenant, de plus en plus. Dans son livre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, « Journal spirituel d'une mère de famille », il y a toute une section là-dessus, dont je n'aurai pas le temps, évidemment, de vous parler en quelques minutes. Aujourd'hui, l'émission est un raccourci de moitié. Et alors, elle court pour participer à certains moments joyeuses à la table de ses enfants après avoir parlé d'avoir écrit sur la génération du Verbe, sur l'éternité de Dieu, parce qu'on l'a appelé à déjeuner, hein. Puis la collation achevée, ou le repas achevé, là, elle retourne à sa plume, puis elle poursuit la description que lui dit le Seigneur sur les abîmes de la Trinité, puis les autres mystères de Dieu. Vous direz que ça n'a pas de sens, il faut le lire pour voir. Cette Conchita, cette femme merveilleuse, dont je vous rappelle le véritable nom, Concepción Cabrera de Armida, eh bien, Madame Cabrera, mexicaine, est une sainte d'aujourd'hui. C'est notre sœur dans Christ, quoi. C'est ce que dit d'ailleurs Roberto de la Rosa, ce père, ce prêtre, missionnaire du Saint-Esprit qui s'en est occupé. Alors, rencontre spirituelle, vous le savez, depuis près de 3 ans, montre bien, il me semble, que l'Église est d'une étonnante richesse dans la variété fantastique de ses apôtres, de ses docteurs, de ses maîtres spirituels. Puis de ces types de sainteté, d'hommes et de femmes. Je vous ai parlé de saints, dans le passé, même dans l'Ancien Testament, que l'on appelle souvent des saints, des grands prophètes, d'hommes, de femmes. Je vous ai parlé beaucoup de gens de notre époque, souvent je vous ai parlé même de Mère Teresa quelques jours après son décès. Mais après les apôtres et les saints de l'Orient, après un saint Augustin, une Sainte Catherine de Sienne, dont je vous parlerai bientôt, d'un Saint Jean de la Croix et d'une Thérèse d'Avila. L'Église nous présente aussi Don Bosco, le père de Foucault. Et plus près de nous, à côté des figures d'une Thérèse de Lisieux et d'une Maria Goretti, dont on s'est un peu moqué, mais dont je vous ai parlé, et puis ça avait beaucoup plu, parce qu'il y a moyen de parler de Maria Goretti en comprenant ce que c'est qu'une jeune fille noble, d'un milieu pauvre, mais qui a du caractère et de l'amour. Mais l'Église nous découvre en ce moment cette jeune Mexicaine, au regard pur et clair, qui est devenue mère de 9 enfants, puis grand-mère d'une nombreuse postérité, qui est passée sur la terre avec simplicité. Une femme comme les autres, mais qui cache, on peut dire dans les profondeurs de son âme, une extraordinaire flamme apostolique, une ardeur héroïque à imiter le Christ, à s'identifier à celui qu'on appelle le crucifié, pour sauver les hommes avec lui, car dans le crucifié, elle voit l'amour incomparable de Dieu. Trop longtemps, la sainteté a été considérée comme le monopole, il me semble, de la vie religieuse ou des prêtres. De nombreux pères conciliaires, le Vatican II, je m'en souviens fort bien, ont tenu à réagir contre cette conception Exclusive, hein? Car l'Église aujourd'hui a besoin de saints partout, non seulement dans le cloître puis au pied des autels, mais dans la famille, dans les milieux de travail, dans tous les secteurs de l'activité humaine. La sainteté, c'est un appel de Dieu qui s'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes. Ce qui frappe le plus dans Conchita, c'est sa polyvalence. Et Conchita a réalisé toutes les vocations de la femme. Fiancée, mère, veuve, grand-mère, aïeule et même par un indulte très spécial de Saint Pie X, sans jamais quitter le cadre familial, elle est morte canoniquement religieuse entre les bras de ses enfants après avoir fondé des communautés. Elle était religieuse depuis déjà un bon bout de temps. Son journal spirituel, avec ses 66 volumes, manuscrits, ça atteint, comme je vous ai dit au début, l'ampleur de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin sur le plan de la quantité. C'est un journal qui s'élève sans effort, souvent sans transition, d'ailleurs, comme je vous ai dit, des occupations les plus humbles du ménage, jusqu'à la génération du Verbe dans les splendeurs de la Trinité. C'est très beau, ces passages-là. Et par la profondeur puis la sublimité de ses écrits, beaucoup d'observateurs sérieux ont considéré que Conchita est l'émule d'une Sainte Catherine de Sienne ou d'une Sainte Thérèse d'Avila. On a dit en 1913, alors qu'elle est passée à Rome au sujet de... Elle avait 50 ans à ce moment-là pour ses fondations. On a dit de ses textes, c'est l'extraordinaire dans l'extraordinaire. C'est vraiment fantastique, sa vie. Elle est née le 8 décembre 1862. Et elle a ressenti dès 1881, avant l'âge de 20 ans, un fort désir de perfection, un 16 septembre. Et quelques années plus tard, à 21 ans et 11 mois, disons 22 ans, elle s'est mariée avec quelqu'un de merveilleux, absolument, qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé. Mais malheureusement, en 1901, après qu'ils aient eu 9 enfants, son mari est mort. Elle était veuve à 37 ans. Il est mort un 17 septembre 1901. Et elle-même meurt le 3 mars 1937 à 74-75 ans. Et plus de 20 ans plus tard, un 29 septembre, à la fête des archanges, c'est l'ouverture canonique de son procès de béatification à Rome. Hein. Rappelons que quand elle était jeune, c'était une élégante amazone, elle est ses fiancées à 13 ans. Elle avait une nostalgie de Dieu pendant ses fiançailles. C'était marqué en grande partie par la mort tragique de son frère Manuel, qui était le point de départ d'une vie nouvelle. Et son mariage a été une réussite. C'était une relation parfaite avec un homme qui la comprenait profondément. Et elle a pu monter spirituellement tout en mettant au monde tous ses enfants. Et il lui a dit, au moment de sa mort, « Ta mission sera de sauver les âmes. » Elle a eu des fiançailles spirituelles avec le Christ. Il y a une étape nouvelle. C'était la joie dans la souffrance. Elle a su expérimenter ça profondément. Elle a eu une vie quotidienne transfigurée dans ce qu'elle appelle son cloître intérieur. Elle a eu des illuminations divines, mais sans, tout en étant une femme parfaitement normale, souriante et à ses affaires. Et il n'y avait rien de déplacé chez elle. Hein? Alors on l'a assuré d'ailleurs que son esprit était de Dieu. Elle est devenue donc veuve avec 8 orphelins. Il lui restait 8 des 9 enfants. Et elle a fait ce voyage en Terre Sainte et à Rome, tout en revenant à la maison éduquer ses enfants. Elle avait d'ailleurs amené 2 de ses enfants avec elle. Son fils Manuel est devenu jésuite et sa fille Concha est religieuse. Les 4 enfants survivants se sont mariés. C'est un écrivain et mystique assez étonnant. Hein? Elle a écrit sur la doctrine de la croix, ou la Vierge de la Croix, le mystère de l'Église, les abîmes de la Trinité. On peut évidemment se poser la question, Qu'est-ce que Dieu a bien voulu réaliser par l'intermédiaire d'une simple femme comme ça, une mère de famille, pour le bien de toute son Église, hein? Être épouse et mère, dit-elle, n'a jamais été un obstacle pour ma vie spirituelle. J'étais heureuse avec mon mari. Et dans le dernier entretien avec son mari, quand il est mort, et elle lui a demandé « Quelle est ta dernière volonté à mon égard ?» Il lui a dit « Que tu sois tout à Dieu et tout à tes enfants. » Il lui donnait ses enfants. Et un jour, le Seigneur lui dit, « Écoutez bien, c'est très important. Tu t'es marié en vue de mes hauts desseins pour ta propre sanctification et pour être un exemple pour beaucoup d'âmes qui pensent que le mariage est incompatible avec la sainteté. » Or, les grâces mystiques les plus élevées qu'on peut lire dans les grands livres des maîtres spirituels comme Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, etc., ne sont certainement pas le privilège des âmes consacrées à Dieu dans la vie sacerdotale ou religieuse. Elles sont offertes à tous les chrétiens, hein, quelle que soit leur condition. Pensez à ce banquier dont je vous ai parlé le 26 janvier, Jérôme Jagen. La cassette est disponible le 26 janvier. Il a expérimenté, lui, un banquier, les plus grandes faveurs mystiques. Il n'existe pas de chrétiens, d'ailleurs, de second rang, et nous sommes tous obligés de nous diriger vers la plus haute sainteté. Obligés, oui, c'est une obligation. Et soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dit Jésus. Alors, Conchita a reçu les grâces imminentes de ce qu'on appelle les épousailles et le mariage spirituel. Ils sont décrits par les grands mystiques. Dans sa condition de pauvre mariée, comme elle s'appelait elle-même, le Seigneur lui avait annoncé lui-même qu'elle serait un modèle d'épouse et de mère de famille, mais sa mission s'étendrait bien au-delà. Et son message appelle tous les laïcs du monde entier, les hommes et les femmes mariés, à la plus haute sainteté. Vous direz peut-être que ça n'a pas de bon sens, c'est trop exigeant, mais je pense que si on pense comme ça, on se trompe. J'ose le dire, car la voie de la sainteté, c'est pour tous, tout le monde, y compris les enfants. Il y a des enfants qui sont des saints et qui sont morts en odeur de sainteté. Il ne s'agit pas d'un type de sainteté qui s'éloigne de l'Évangile. Il s'agit d'un ressourcement en vue d'une application nouvelle de ce même Évangile. Ce qui constitue sa nouveauté, c'est un appel qui s'adresse à tout le monde, tous les laïcs, les gens mariés, appelés à la plus haute sainteté. La plus haute, oui, la plus haute sainteté. C'est par la transfiguration de la vie quotidienne, la sanctification du profane, la divinisation par la foi, par l'amour et par l'esprit de sacrifice dans la vie ordinaire. C'est la plus haute sainteté, c'est ça qu'elle demande. Transcendance du message de la croix, finalement. Même les actions les plus banales sont valorisées à l'infini. Comment? Par l'offrande d'amour, en union avec le Christ. Il faut être uni au Christ vivant, l'aimer, puis s'offrir dans l'amour, offrir tout, avec joie, à l'imitation des dernières années en ce monde de la Sainte Vierge, qui a servi l'Église naissante à Sainte Vierge. Et au soir de sa vie, Jésus a demandé à Conchita de commencer une œuvre nouvelle en faveur de la sainteté des foyers. Je ne peux pas, j'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais on peut voir l'opportunité providentielle de cette œuvre. La mission par excellence de Conchita, c'est celle de s'offrir pour l'Église, pour la sanctification des prêtres. Elle entend cette voix, « Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à mon Église. En union avec moi, Dieu fera de grandes choses par toi. Répète fréquemment, je suis la servante du Seigneur. » Dès le commencement de sa vie spirituelle, elle a senti un attrait particulier de la grâce pour prier, se sacrifier en faveur des prêtres. Mais à mesure que sa vie spirituelle se développait, la volonté du Seigneur se faisait de plus en plus manifeste. Elle entend cette voix, « Si tu veux sauver les âmes, il n'y a qu'un moyen unique et puissant, les prêtres saints. » Oui, voilà le couronnement des œuvres de la croix, c'est ça qu'elle a fondé. Ce couronnement sera le vrai soulagement de mon cœur, dit Jésus. Me donner des prêtres saints. Dis-moi que tu acceptes, que tu appartiendras avec moi aux prêtres à jamais, parce que ta mission en leur faveur continuera dans le ciel. Et de cette façon, tu glorifieras la Trinité. Que Conchita soit un modèle de mère, d'épouse et d'éducatrice de ses enfants, si par surcroît on peut dire, à toute cette vie spirituelle extraordinaire. Elle nous dit, avant toute autre chose, qu'une existence chrétienne est digne de se vivre seulement quand elle ne se vit pas pour soi-même et pour l'Église. Et Conchita nous apprend comment aimer l'Église. Aimer l'Église, ce n'est pas la critiquer, ce n'est pas la détruire. Ce n'est pas prétendre changer ses structures essentielles. Ce n'est pas la réduire à un humanisme ou à un horizontalisme et au simple service d'une libération humaine. Non, aimer l'Église, pour elle, c'est obtenir que le Saint-Esprit vienne renouveler la face de cette pauvre terre, la conduisant à sa consommation. Sa consommation, son but ultime, dans le projet de l'amour immense de Dieu notre Père. Conchita, qui est une simple laïque, elle est loin de critiquer les prêtres, elle donne sa vie pour eux. Et dans une élévation sublime à la Trinité, elle s'exclame à un moment donné, « Je livre entre vos mains, par une donation absolue, totale, sans condition, tout mon être en faveur des prêtres. Je veux porter dans mon cœur notre Saint-Père, chargé de tout le poids de l'Église, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les curés de paroisse, les prêtres, les séminaristes, qui chancellent et luttent pour leur vocation. Moi-même, je ne vaux rien, mais je te possède, toi. Et je te supplie de m'utiliser pour le bien de l'Église, aimé et de toutes ces hiérarchies, que j'aime et respecte de tout mon cœur. Et comme Thérèse de Lisieux et Jean 23, Conchita est une grâce de Dieu pour son Église. Une croix grande, très grande, au centre, il y a le cœur de Jésus, l'amour du Verbe incarné, c'est comme ça qu'elle voit la croix. Avec le cœur brûlant d'amour, l'amour du Verbe incarné qui dit « Pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». C'est l'amour ultime, et tout cela sous les ailes de lumière et de feu du Saint-Esprit, amour personnel de Dieu. Et ce message a une dimension universelle. Jamais l'homme n'a tant souffert que dans le moment présent. Jamais, comme aujourd'hui, toute cette souffrance n'a été si inutile. Hein? Le monde actuel est sous l'empire de la croix. Mais malheureusement, ce n'est pas la croix de Jésus, parce que c'est une croix sans amour. Mais tous les hommes souffrent. Mais rares sont ceux qui savent souffrir, hein? Comme Conchita. La douleur humaine doit être transfigurée par l'amour. Et à partir de ce moment-là, elle se transforme en force dynamique. Et ainsi, si nous aimons comme ça, nous construisons un univers nouveau. La croix transfigurée par l'amour est une croix illuminée par l'espérance qui est certitude de notre complète libération. Elle conduit à la gloire de la résurrection. Le message de Conchita, c'est un appel à vivre la croix de Jésus. Croix transfigurée par l'Esprit Saint. Croix qui est la parfaite glorification du Père, parce qu'elle est baignée d'amour. La spiritualité de la croix n'est pas un dolorisme. Sortons-en une fois pour toutes. C'est pas non plus une passivité. La spiritualité de la croix, c'est une collaboration active à cette immense libération intérieure et profonde de l'âme, des âmes, de tout l'univers. C'est une coopération à la construction de la terre nouvelle. Il s'agit, dans un sens profond, d'une rédemption par l'amour, d'une sanctification, transfiguration et configuration au Christ qui nous a aimés jusqu'à la fin. Je cite ici et là des passages de Conchita, mais je n'ai pas le temps de tout vous dire. Quelle tristesse, parce que c'est tellement une émission qui aurait pu être formidable. Enfin, 50 ans avant le Concile, depuis 1911, Conchita ne cessait de le répéter dans ses écrits. Il faut à l'Église et au monde une nouvelle Pentecôte, une seconde Pentecôte, une Pentecôte sacerdotale, une Pentecôte intérieure. Oui, la mission prophétique de Conchita, c'est celle de rappeler au monde moderne et matérialisé, avide de liberté, qu'il sera sauvé uniquement par une nouvelle Pentecôte et par l'Évangile de la Croix. Cette nouvelle Pentecôte, cette action sanctificatrice de l'Église, doit commencer chez les prêtres et s'étendre dans le peuple de Dieu tout entier, comme dans la première Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et sur toute la communauté rassemblée au Cénacle. Je veux, elle écrit ça en 1928, je veux revenir au monde en mes prêtres. C'est la voix de Jésus. Je veux renouveler le monde des âmes en me manifestant dans mes prêtres. Je veux une impulsion puissante dans mon Église en infusant sur elle l'Esprit Saint comme dans une nouvelle Pentecôte. Et en 1901, il y a ce texte magnifique, « L'Esprit Saint règnera le jour où règnera aussi mon sacrifice de douleur, la croix dans les cœurs. Et tant que la croix ne règnera point dans les âmes, l'Esprit Saint lui non plus ne règnera pas. » Je vous le rappelle, c'est pas une croix doloris, c'est une croix d'amour. L'amour. Que Marie, mère de Jésus et mère de l'Église, puisse intercéder pour que ce prodige de la Pentecôte se renouvelle, elle qui était la présente à la Pentecôte, et que l'Église, qui est ce peuple rassemblé par la vertu de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, comme elle le dit, Conchita, réalise le dessein d'amour qui jaillit du Père, et que l'Église soit vraiment l'Église sainte.